Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongona Simango.
Madame, monsieur, bonjour. Comment lutter efficacement contre Ebola tout en protégeant les centres de soins, les malades et le personnel soignant dans les zones touchées qui sont affectées par l'insécurité? Le sujet a été au centre des discussions samedi à Kinshasa entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, les gouverneurs du Nord et du Sud Kivu, ainsi que les responsables de la MONUSCO. Vous suivrez le chef de la mission onusienne à ce sujet. Course pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La première ministre a officiellement lancé jeudi à Paris la candidature de Juliana Lumumba pour la RDC. La lutte contre Ebola, il en sera question également avec notre invité avec cette préoccupation. Comment assurer une réponse plus efficace aujourd'hui en tirant les leçons des précédentes épidémies au Nord Kivu et en Ituri? Nous recevons donc Papika Sereka, analyste des questions de crise et de conflit dans l'Est de la RDC. Mais avant d'aller plus loin, sachez d'abord que il y a eu dimanche de frayeur hier à l'aéroport international de Bamboka à Kisangani. Hier donc, en début de soirée, le ciel de la capitale de la Tchopo a été le théâtre d'une tentative d'attaque ciblée. Deux drones armés ont mis le cap sur les installations aéroportuaires avant d'être neutralisés en plein vol par le dispositif de défense des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous faisons le point avec Jacques Mukonkole.
Si la riposte des FRDC a permis d'éviter le pire, l'alerte a immédiatement plongé le site dans une panique généralisée. Au moment des faits, rapportent des témoins, l'aérogare affiché complet. Passagers en attente, accompagnateurs et personnel au sol ont dû évacuer les lieux dans la précipitation pour regagner le centre-ville. Conséquence directe de cette double incursion, le vol d'une compagnie aérienne nationale en provenance de Kinshasa a dû être annulé à la dernière minute. Pour l'heure, les autorités provinciales et militaires gardent le mutisme. Aucune communication officielle n'a encore été faite. Cette attaque n'est pas la première du genre. En février et à mars 2026, l'aéroport avait déjà été la cible de ces engins explosifs. À chaque fois, les vecteurs aériens de l'armée régulière avaient fait avorter l'assaut. Une répétition qui repose avec acuité la question de la sécurité de l'espace aérien dans cette partie du pays. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Et revenons à notre une annoncée en titre avec la crise sanitaire d'Ebola dans l'est de la RDC. Dans ces provinces déjà fragilisées par la présence de groupes armés, la gestion de l'épidémie soulève de nouveaux défis, notamment en ce qui concerne la protection des centres de prise en charge des patients et du personnel soignant. Face à cette situation, le gouvernement congolais, à travers le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a réuni samedi à Kinshasa les gouverneurs du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que les responsables de la MONUSCO. Objectif, évaluer les risques sécuritaires liés à cette épidémie. À cette occasion, la MONUSCO a réaffirmé sa disponibilité à accompagner le gouvernement congolais dans les efforts de riposte contre Ebola, particulièrement sur le volet sécuritaire. Pour James Swan, chef de la mission onusienne, une collaboration étroite reste indispensable pour prévenir toute aggravation de la situation dans les zones affectées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
On est très honoré de toute façon du fait que Son Excellence le Vice-Premier ministre nous a associés en tant que la MONUSCO afin de parler des aspects sécuritaires de la réponse à cette épidémie de l'Ebola. Nous comprenons qu'il y a une stratégie gérée par les experts dans la santé, y compris le ministre de la Santé, mais il y a 9 piliers de la stratégie congolaise et parmi ces 9 piliers, il y a un élément sécuritaire. Alors, étant donné que la MONUSCO est un partenaire sécuritaire du gouvernement, nous voulions y participer aussi afin de voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble et la MONUSCO et le gouvernement du Congo afin de répondre aux éléments sécuritaires de cette épidémie. C'était une initiative très appréciée. On a du travail à faire ensemble afin de mettre en vigueur les quelques décisions prises pendant la réunion.
Réunis la semaine dernière à Kampala, le ministre de la Santé, la RDC, de l'Ouganda et du Soudan du Sud ont décidé de renforcer la surveillance aux frontières pour mieux lutter contre l'épidémie d'Ebola. Une décision qui vise à mettre en place une riposte régionale plus efficace pour contenir rapidement la propagation du virus. Ces éléments recueillis par Suzanne Zobo-Odra sont rendus par Jean Gandou.
La surveillance transfrontalière sera renforcée entre la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud. C'est l'une des principales décisions issues de la réunion tenue du 22 au 23 mai à Kampala. Selon le ministère congolais de la Santé, face à la progression d'Ebola dans l'est de la RDC, notamment en Ituri, au nord et au sud Kivu, les autorités veulent améliorer la détection des cas, y compris au point d'entrée informel. Les trois pays ont décidé d'harmoniser leurs mesures sanitaires et de mieux suivre les mouvements des populations dans les zones à risque. Cette décision intervient dans un contexte marqué par la porosité des frontières et l'insécurité qui favorise la propagation du virus. Les États s'engagent aussi à renforcer les capacités des laboratoires, la prise en charge des patients et la prévention. Objectif, une riposte régionale plus efficace pour contenir rapidement l'épidémie.
La République démocratique du Congo demeure fortement exposée aux chocs économiques internationaux en raison de sa dépendance aux importations alimentaires. Dans une note de conjoncture dont une copie est parvenue samedi à Radio Okapi, le programme alimentaire mondial PAM alerte sur les risques que font peser les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et les perturbations logistiques mondiales sur la sécurité alimentaire du pays. Malgré un ralentissement de l'inflation, la hausse des prix de carburant continue de ronger le pouvoir d'achat des ménages, tandis que l'insécurité persistante dans l'Est aggrave les besoins humanitaires. D'autres détails avec Ella Chimbalo.
Dans sa note, les programmes alimentaires mondiaux soulignent la forte dépendance de la RDC aux importations pour l'approvisionnement en produits alimentaires de base. Une situation qui rend le pays particulièrement vulnérable aux perturbations des marchés internationaux et à la hausse des coûts des transports. Cette pression économique intervient alors que plusieurs provinces de l'Est terrestre sont confrontées à l'insécurité, au déplacement des populations et aux difficultés d'accès humanitaire. Le PAM révèle également que les niveaux d'insécurité alimentaire aiguë demeurent préoccupants, notamment dans les zones affectées par les conflits. Pour limiter les risques d'aggravation de la situation, l'organisation préconise les renforcements de l'aide humanitaire, les soutiens à la production agricole locale et la diversification des sources d'approvisionnement alimentaire. Pour les programmes alimentaires mondiaux, ces mesures sont indispensables pour renforcer la résilience des ménages congolais face aux chocs économiques et sécuritaires qui menacent leur accès à l'alimentation.
La première ministre Judith Suminatuluk a officiellement lancé jeudi à Paris la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, une candidature portée par la chef du gouvernement qui veut défendre une francophonie plus proche des peuples, davantage tournée vers la jeunesse, le sud global et les grands défis contemporains. À travers cette candidature, la RDC entend renforcer sa voix au sein de l'espace francophone tout en promouvant une nouvelle vision du leadership africain sur la scène internationale. Le point avec Christian Makasinga.
Lors de cette cérémonie, la première ministre Judith Suminatuluka a présenté cette candidature comme celle d'une francophonie moderne et tournée vers l'avenir. Je cite, une francophonie qui avance, une francophonie qui ose, une francophonie qui se renouvelle sans renier ses valeurs. Fin des citations. Pour la chef de gouvernement, cette candidature représente également un signal fort pour la place des femmes africaines dans les espaces de gouvernance internationale. De son côté, Juliana Lumumba inscrit sa démarche dans la continuité de combat historique de peuple sud global pour la dignité, la souveraineté et une coopération plus équilibrée. La fille de Patrice Emery Lumumba défend une francophonie qu'elle qualifie de civilisationnelle, capable, selon elle, de dépasser les simples cadres diplomatiques ou économiques. Même vision du côté de l'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kasongo, qui estime que cette candidature porte l'ambition d'une francophonie plus proche du peuple, attentive aux aspirations de la jeunesse et engagée face aux défis actuels. À travers cette offensive diplomatique, Kinshasa a-t-on renforcé son influence au sein de l'espace francophone mondial. La RDC veut désormais faire entendre une voix africaine plus forte au sein de l'OIF.
Et puis ce constat, routes dégradées, manque d'eau et d'électricité, insécurité, difficulté d'accès aux soins, encore hausse du coût de la vie à travers le pays, les Congolais continuent de faire face aux mêmes problèmes du quotidien, souvent dénoncés, mais sans véritable solution concrète. À l'Assemblée nationale, les élus veulent désormais éviter que les préoccupations recueillies auprès de la population pendant les vacances parlementaires restent sans suite. Une commission spéciale poursuit actuellement à Kinshasa les travaux de compilation et d'analyse de rapports de vacances parlementaires couvrant la période de décembre 2025 à mars 2026. Objectif, centraliser les attentes exprimées par les citoyens afin d'assurer un meilleur suivi des recommandations adressées au gouvernement et pousser les ministres concernés à répondre aux problèmes soulevés dans leur secteur respectif. Des détails avec Rassam Zati, notre permanent au Parlement.
Depuis quelques jours, les membres de cette commission temporaire travaillent à harmoniser les différentes préoccupations recueillies par les députés nationaux lors de leurs vacances parlementaires à travers le pays. Les travaux portent notamment sur les difficultés auxquelles les populations restent confrontées au quotidien. État des routes, accès à l'électricité et à l'eau, insécurité, chômage des jeunes, problèmes de santé ou encore manque d'infrastructures de base. L'objectif est d'élaborer un document de synthèse qui servira de référence aux prochaines actions parlementaires ainsi qu'aux interventions du gouvernement sur les questions soulevées par les citoyens. Ces travaux se déroulent sous la supervision du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Clotilde Moutita. Dans la nuit du vendredi 22 mai, elle s'est rendue sur les lieux des travaux pour encourager les membres de la commission mobilisés jour et nuit afin de finaliser ce travail jugé essentiel. De son côté, le président de la commission, le député Tade Katembo Kambere, regrette que plusieurs recommandations formulées par les députés restent souvent sans réponse de la part du gouvernement. Face à cette situation, il annonce que les membres du gouvernement concernés seront appelés dès la semaine prochaine à venir s'expliquer sur les dossiers relevant de leurs secteurs respectifs.
Le gouvernement provincial du Maniema va organiser sous peu le dénombrement de la population sur toute l'étendue de la province. Pour ce faire, les relais communautaires et les agents du ministère de l'Intérieur formés pour cette fin passeront ménage par ménage pour compter et identifier les personnes qui y vivent. Cette opération, selon l'autorité provinciale, permettra notamment de connaître l'effectif de population dans la province. Annonce faite samedi par le gouverneur de province qui appelle à une mobilisation totale pour la réussite de cette opération. On écoute Moïse Moussa Kawankoubi dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
Ce dénombrement nous permettra de connaître le nombre de personnes dans la province, de mieux comprendre les besoins de notre communauté afin de planifier et allouer les ressources de manière équitable et efficace lors de nos interventions. En effet, en connaissant le nombre exact de personnes dans notre communauté, nous pouvons améliorer l'accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures. Je vous recommande ainsi et vous encourage à coopérer avec les équipes de dénombrement qui passeront dans chaque ménage pour nous faire participer à cette initiative en vue de renforcer notre cohésion et notre capacité à travailler ensemble pour un avenir meilleur dans notre province. Dénombrer égale trouver un chiffre réel.
Nous sommes en Ituri. Un calme précaire règne autour de la plaine de Savo dans les territoires de Djougou, mais la population reste sous le choc après les incidents sécuritaires survenus vendredi autour de ce site déplacé. Des maisons et des véhicules ont été incendiés tandis que 11 personnes tuées lors des affrontements entre FARDC et les éléments de la rébellion de Thomas Lubanga ont été inhumés. Des détails avec Jean-Claude Okidile.
Un calme précaire a régné ce dimanche autour du site de Plaine Savo. Selon des sources locales, des maisons ainsi que des véhicules ont été incendiés samedi autour du centre commercial de Boulé par des hommes armés présentés comme des personnes en uniforme. Les motivations de ces actes ne sont pas encore connues, indiquent les mêmes sources. Toujours samedi, 11 personnes tuées lors des affrontements survenus vendredi entre les militaires des FARDC et les éléments de la rébellion aux conventions pour la révolution populaire de Thomas Lubanga ont été inhumées. D'après les habitants joints par téléphone, les victimes seraient des déplacés installés sur les sites de Plaine Savo. 13 autres personnes décédées par balles poursuivent actuellement des soins dans différentes structures sanitaires de la région. Cependant, selon des sources sécuritaires, 4 éléments de cette rébellion ont été tués et 2 autres grièvement blessés lors des combats qui se sont déroulés au village de Liri. Les assaillants auraient également incendié quelques huttes d'une position des FARDC dans cette région. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Capi.
24 mai, journée mondiale du bricolage. Une journée dédiée à la créativité et au savoir-faire qui prend tout son sens à Kinshasa où les déchets plastiques et métalliques envahissent les rues et bouchent les caniveaux. Face à cette situation, les spécialistes de l'environnement encouragent le recyclage et la transformation de ces déchets en objets utiles pour assainir la ville et protéger l'environnement. Joël Loboto, spécialiste en sensibilisation environnementale et développement durable, appelle à un changement de comportement mais aussi à un engagement des autorités. Laetitia au micro de Christian Makasinga.
La journée mondiale du bricolage représente une occasion de valoriser la créativité, l'innovation et le savoir-faire pratique au service de la société et de l'environnement. Et aujourd'hui, le bricolage joue un rôle important dans la protection de l'environnement grâce à la réutilisation et la transformation des déchets en objets utiles comme des pavés, comme des chaises, comme des œuvres d'art, comme des pots de fleurs, comme des objets décoratifs, comme des poubelles, les déchets plastiques, les déchets métalliques, bouche Le caniveau favorise les inondations, dégrade le cadre de vie. L'occasion de cette journée, nous invitons chacun à adopter des comportements responsables, éco-gestes, pour protéger notre environnement.
Les déchets ne doivent plus être considérés comme un objet inutile, mais comme des ressources capables de contribuer au développement durable et à l'amélioration de notre cadre de vie. Il faut que le ministère de l'Environnement, le ministère des Cultures et Arts, le ministère sectoriel, veuillent travailler ensemble à ce qui concerne le bricolage, le recyclage dans le milieu urbain.
Actualité internationale.
À Cotonou, Romuald Ouadani a officiellement été investi le week-end président de la République du Bénin devant la Cour constitutionnelle lors d'une cérémonie solennelle marquant la passation du pouvoir avec Patrice Talon. Élu le 12 avril avec environ 94% du suffrage, l'ancien ministre de l'économie et des finances succède à son ancien supérieur politique Patrice Talon dans un contexte marqué par une forte continuité institutionnelle.
L'invité.
La maladie à virus Ebola refait surface en RDC dans un contexte toujours marqué par l'insécurité dans sa partie est. Cette situation relance des défis de la riposte entre urgence sanitaire, contrainte sécuritaire et nécessité de renforcer la mobilisation communautaire. Alors comment assurer une réponse plus efficace aujourd'hui en tirant des leçons des précédentes épidémies au Nord Kivu et en Ituri? Pour en parler, nous recevons Papi Kasereka, analyste des questions de crise et de conflit dans l'est de la RDC. Ils sont traités avec Martial Papi Mukeba.
Papi Kasereka, bonjour.
Bonjour, Martial.
Comment analysez-vous les défis de la riposte contre Ebola sur les terrains?
J'ai identifié 3 défis. Les défis en lien avec l'insécurité dans la zone, parce que Ebola est dans une zone d'insécurité, particulièrement le Nord Kivu et l'Ituri, connu pour les problèmes d'insécurité. Nous avons aussi les défis en lien avec l'état d'attente pour les échantillons qui doivent être pris en charge. Et aussi, il y a les défis en lien avec la mobilisation des moyens nécessaires pour les équipes de la riposte, parce que la riposte se fait avec l'argent. Au-delà des défis, je pense qu'il est aussi essentiel de réfléchir sur des solutions palliatives face à ces défis-là, notamment en lien avec l'insécurité. Je pense que les épidémies passées, notamment la 10e, la 11e épidémie, nous ont donné assez d'expériences significatives et des compétences nécessaires dans la zone, en suivi des contacts, en investigation, dans les systèmes d'alerte précoce à base communautaire, mais aussi qui connaissent même les circuits de la prise en charge médicale, si SMA, si le protocole est défini. Par rapport avec l'insécurité, il est important que les équipes de la réponse se focalisent, s'appuient sur des compétences locales. Ça peut permettre à ce que nous puissions pallier à ces défis. Ça permettra aussi de renforcer l'engagement communautaire, la confiance pour ce qui concerne l'état d'attente pour obtenir le résultat. Parce que pour l'instant, les examens doivent être acheminés à Kinshasa. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'il est important que l'équipe de coordination de la réponse puisse capitaliser les expériences des épidémies passées en essayant par exemple de déployer, de décentraliser rapidement les laboratoires mobiles pour que les examens ne prennent pas beaucoup de temps et ceci aura comme impact la réduction des tensions au sein des communautés.
Quelles leçons concrètes les équipes des ripostes et les communautés peuvent-elles tirer des précédentes épidémies d'Ebola au Nord Kivu et à Ituri?
La surveillance à base communautaire, les relais communautaires, des gens qui pouvaient surveiller, qui détectaient les cas et qui les signalaient à temps, ceci a permis en fait que les communautés vainquent l'épidémie. Parce que si les gens au sein de la communauté peuvent être à mesure au niveau des centres de santé, de détecter les premiers signes, de les analyser et d'informer rapidement les équipes de la riposte, ceci permettra donc aux équipes de la riposte d'intervenir à temps. Et donc l'engagement communautaire est crucial. Et ceci a été grâce au système d'alerte précoce et réponse rapide à base communautaire. Donc c'est l'une des grandes leçons que nous pouvons déjà capitaliser. Parce que si nous savons en face de nous des communautés qui vont continuer à dire cette maladie n'existe pas, Ebola c'est une affaire de coupe d'argent, nous savons ce que ça donne, c'est que le nombre de morts a tendance à s'augmenter. S'il y a la désinformation, souvent dans les contextes ici, il y a toujours des politiques qui tirent la ficelle là-dessus. On ne peut pas faire la politique politicienne si des questions de santé publique, cette mentalité-là ou cette attitude ou cette façon de faire, de propager des fausses informations, a fait à ce que l'ancienne épidémie, on a dénombré plus de 2000 morts. Il ne faut pas que ça se répète. On a la possibilité de contrôler et gérer cette épidémie avec méthode.
Selon vous, quels éléments de ces anciennes ripostes ont les mieux fonctionné et devraient être renforcés aujourd'hui dans la lutte contre Ebola?
La riposte précédente a décentralisé pratiquement la gestion des laboratoires. On a déployé des laboratoires mobiles à Beni, à Butembo. Ceci fait en sorte que les gens ne pouvaient que patienter pour obtenir les résultats 2 heures maximum. ils avaient les résultats. Lorsque les communautés savent que dans 2 heures nous aurons résultats, ils n'ont pas donc intérêt à s'énerver ou ils ne peuvent pas attendre 5 heures, 4 heures, 10 heures pour aller enterrer leur corps. Ils ont les résultats rapidement et les bonnes décisions en matière de prévention et de contrôle des infections peuvent être prises. Les gens savaient par exemple si le corps est positif, on peut faire l'enterrement digne et sécurisé. Si le corps du suspect est positif, on peut l'acheminer vers les centres de traitement rapidement. Parce que plus le temps traîne, plus il y a un risque de contamination, plus il y a un risque de fuite. Les gens peuvent fuir. Donc, c'est très important de capitaliser ces leçons-là, de décentraliser la gestion des laboratoires, mais aussi de travailler avec les communautés, notamment sur des questions en lien avec la détection précoce des cas et d'alerte des équipes de la réponse. Parce que lorsque les communautés s'engagent, il est clair que les épidémies sont toujours vaincues.
Comment améliorer la collaboration entre les équipes des ripostes et les communautés locales en fait de renforcer l'efficacité des interventions sur le terrain?
Si les équipes des ripostes travaillent avec les communautés, les impliquent dès le début, impliquent les leaders, les responsables étatiques, tout le monde met la main dans la pâte, il est possible de construire la confiance. Et si la confiance est là, les communautés vont s'impliquer. Et si les communautés s'impliquent clairement, c'est les communautés qui mettent fin en réalité aux épidémies. Il faut que les communautés s'engagent. L'engagement communautaire, je pense, est au cœur du succès dans la gestion de cette nouvelle épidémie.
Papi Kasereka, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Papi Kasereka, analyste des questions de crise et des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à ce journal préparé par Jude Mister Bilanda, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci à vous qui nous avez suivis. Passez une autre bonne semaine.